Du pain sur la table.
Dialogue autour de l'Évangile avec André Choquette
et Georges Convert.
Évangile de Jésus selon l'écrit de Jean. Texte de la liturgie catholique romaine pour le cinquième dimanche de Carême. Jésus se rend au mont des Oliviers. Au petit jour, de nouveau, il se présente au temple. Tout le peuple vient à lui et, s'asseyant, il les enseigne. Les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère. Ils la placent debout au centre et disent à Jésus :
« Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Dans la Torah, Moïse nous a prescrit de lapider celle-là. Toi, que dis-tu ? »
Ils disent cela pour lui tendre un piège, afin d'avoir de quoi l'accuser. Mais Jésus se baisse et crie avec le doigt sur le sol. Comme ils persistent à l'interroger, il se redresse et leur dit :
« Celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre. »
De nouveau, il se baisse et crie sur le sol. En attendant cela, un à un, ils sortent, en commençant par les anciens. Jésus reste seul et la femme au centre. Jésus se redresse et lui dit :
« Femme, où sont-ils ? Personne ne t'a condamné ?»
Elle dit :
« Personne, mon Seigneur. »
Jésus dit :
« Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais ne pêche plus. »
Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, et que boive celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, de son sein couleront des fleuves d'eau vive.
Eh bien voilà ce que Jésus proclame dans le temple au dernier jour de la fête des Tentes. Il lance l'invitation à ceux qui sont assoiffés de vérité et de droiture, et qui ont soif de ce surcroît d'amour qui donne de vivre de Dieu, ici et maintenant. Et voici que se présentent devant lui des scribes et des pharisiens qui lui amène une femme adultère pour qu'elle soit jugée et lapidée. D'eux ou d'elle, qui est le véritable assoiffé de vérité? Eh bien voilà la véritable question qui est finalement posée. Et où se situe le véritable procès, celui de la femme ou au contraire celui de Jésus qu'on veut piéger pour ensuite le condamner? C'est ce que nous tâcherons d'éclaircir.
Quel est le contexte de ce passage d'Évangile?
Cet épisode ne se trouve pas, d'une façon un peu surprenante, dans plusieurs bons manuscrits du récit évangélique de Jean, et des manuscrits qui sont pourtant parmi les plus importants. D'autre part, on remarque que le vocabulaire et le style de ce passage semblent différents de ceux de Jean, et peut-être plus proches du style du récit de Luc. La tension qui est portée à une femme, la manifestation de la miséricorde de Jésus traduisent bien d'ailleurs les préoccupations qui sont celles de l'évangéliste Luc. Alors, on pense que ce récit de la femme adultère a pu trouver sa place actuelle en Jean pour venir illustrer le verset 15 du chapitre 8. « Vous jugez de façon purement humaine, moi je ne juge personne. » Mais d'autres manuscrits ont au contraire placé ce récit dans Luc. Et il le situe dans les jours qui précèdent la Passion. Comment comprendre ces incertitudes concernant un texte si beau, un texte qu'on pourrait qualifier d'ailleurs de trésor évangélique? Eh bien, écoutons l'explication qu'en donne un exégète, Alain Marchadour.
Le récit aura vraisemblablement effrayé par son ouverture certains responsables de l'Église primitive. L'adultère était considéré comme un des rares péchés pour lesquels une pénitence était nécessaire et qui ne pouvait être remis qu'une fois dans la vie. Le comportement de Jésus à l'égard de la femme adultère aura pu paraître à certains qui oubliait « va et ne pêche plus » comme une indulgence excessive face à l'infidélité conjugale.
Oui, Marc Chadour s'appuie peut-être sur cette remarque de saint Augustin qui a écrit qu'on a peut-être écarté cet évangile parce qu'il pouvait faire croire aux épouses que leur péché ne serait pas puni. Eh bien, ce n'est d'ailleurs qu'au IIIe siècle que l'épisode va trouver sa place définitive dans le récit de Jean, et il faudra encore 200 ans pour qu'il soit accepté dans la liturgie. Eh bien, de toute façon, notre épisode se situe au temple. Le cadre du récit est le même que le récit se trouve en Jean ou en Luc. Dans les deux cas, on montre Jésus passant le jour à enseigner dans le temple et se retirant la nuit au mont des Oliviers. Mais comme les récits synoptiques n'ont qu'une seule montée de Jésus à Jérusalem, alors l'épisode est placé dans les derniers jours de Jésus, juste avant son arrestation. Toutefois, dans le récit de Jean, l'épisode est aussi inséré à un moment critique de la vie de Jésus. En effet, cela se passe à Jérusalem, à l'automne, lors de la fête des Tentes, une fête à laquelle Jésus a hésité à se rendre, car, le récit nous dit, on cherche déjà à l'arrêter. Le récit de Jean semble dire que c'est au dernier jour de cette fête des Tentes que les grands prêtres ont envoyé des gardes pour arrêter Jésus. Mais ceux-ci sont revenus sans exécuter l'ordre.
Les gardes revinrent donc vers les grands prêtres et les pharisiens qui leur dirent « Pourquoi ne l'avez-vous pas amené ?» Les gardes répondirent « Jamais homme n'a parlé comme cet homme. » Les pharisiens leur dirent « Auriez-vous donc été abusés, vous aussi ?» Parmi les notables ou parmi les pharisiens, en est-il un seul qui ait cru en lui ? Il y a tout juste cette masse qui ne connaît pas la Torah, des gens maudits.
Donc la mission de Jésus touche à son terme. Il a en effet déjà annoncé son départ.
« Je suis encore avec vous pour un peu de temps, et je vais vers celui qui m'a envoyé. »
Les dirigeants du peuple chercheront donc à exploiter les divisions des foules à son sujet.
Parmi les gens de la foule qui avaient écouté ses paroles, les uns disaient « Vraiment, voici le prophète !» D'autres disaient « Le Christ, c'est lui !» Mais d'autres encore disaient « Le Christ pourrait-il venir de la Galilée ?» L'Écriture ne dit-elle pas qu'il sera de la lignée de David et qu'il viendra de Bethléem? C'est ainsi que la foule se divisa en son sujet.
Notre épisode va nous décrire l'un des pièges que l'on cherche à tendre à Jésus pour qu'il se compromette et qu'on ait ainsi des motifs de l'accuser.
Jésus se rend au mont des Oliviers au petit jour. De nouveau, il se présente au temple.
Le mont des Oliviers est une crête qui s'étend sur plus de 3 kilomètres et toute proche de Jérusalem, puisque c'est moins d'un kilomètre, de l'autre côté de la rivière du Cédron. Jésus recherche, selon son habitude, un lieu solitaire pour prier. Mais il peut aussi se faire qu'il préfère dormir hors de la ville, dans un endroit gardé secret, par crainte d'être arrêté. Dans la journée, en effet, les grands prêtres peuvent redouter qu'une arrestation ne soit pas du goût de la foule. C'est ce que nous disent d'ailleurs les récits synoptiques.
Ils cherchaient à l'arrêter, mais ils eurent peur des foules, car elles le tenaient pour un prophète.
Il faudra la trahison de Judas, qui connaît l'endroit secret, pour que les gardes puissent surprendre Jésus, mais de nuit.
Tout le peuple vient à lui, et s'essayant, il les enseigne.
Selon la coutume des rabbis, Jésus s'assoit et ses adeptes forment un cercle autour de lui. C'est en effet la position traditionnelle du maître, le maître qui interprète la Torah qui est la doctrine révélée par Dieu. C'est d'ailleurs à titre de maître, de rabbi, que Jésus va être mis à l'épreuve.
Les scribes et les pharisiens amènent une femme surprise en adultère. Ils la placent debout au centre et disent à Jésus « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Dans la Torah, Moïse nous a prescrit de lapider celle-là. Et toi, que dis-tu ? » Il dit cela pour lui tendre un piège afin d'avoir de quoi l'accuser.
Alors, dans la Torah, Moïse a prescrit de lapider. Eh bien, écoutons ce que dit le texte du Deutéronome.
Si l'on prend sur le fait un homme couchant avec une femme mariée, tous deux mourront. l'homme qui a couché avec la femme et la femme elle-même. Tu feras disparaître d'Israël le mal. Si une jeune fille vierge est fiancée à un homme, qu'un autre homme la rencontre dans la ville et couche avec elle, vous les conduirez tous les deux à la porte de cette ville et vous les lapiderez jusqu'à ce que mort s'en suive. La jeune fille, parce qu'elle n'a pas appelé au secours dans la ville, et l'homme parce qu'il a usé de la femme de son prochain. Tu feras disparaître le mal du milieu de toi.
Le cas présent est celui d'une jeune fille qui est seulement fiancée, qui n'est pas encore mariée. Elle n'a peut-être pas beaucoup plus que 14 ans, se marier jeune à ce moment-là, et il ne faut pas oublier que le mariage est décidé par les parents et qu'ils n'ont pas eu besoin du consentement de la fille. Si l'homme n'est pas mentionné, s'il semble absent, c'est que les lois secondes de la Torah disaient que l'homme n'était accusé d'adultère que dans le cas d'une femme mariée, alors que pour la femme, toute relation avec un homme est adultère. Les scribes, spécialistes officiels des Saintes Écritures, les pharisiens, soucieux de pratiquer la Torah à la lettre, qui viennent amener cette femme à Jésus, sont préoccupés donc à première vue de faire ce que demande Deutéronome, faire disparaître d'Israël le mal. On sait qu'en effet, l'infidélité du peuple est pour eux la cause de la colonisation d'Israël par la Rome païenne. Mais la vraie raison de leur geste se trouve peut-être davantage dans le ressentiment et l'agressivité qu'ils ont envers Jésus. Celui-ci a gagné de plus en plus la confiance des petites gens, des démunis. Il a une attitude de grande empathie envers ceux qui sont précisément rejetés par l'élite religieuse, soit parce qu'ils sont des pécheurs notoires, comme les publicains, les prostituées, ou parce qu'ils sont malades, et les malades, on sait que la maladie est perçue comme une conséquence du péché. Ainsi, les opposants à Jésus organise un cas qui va être typique de violation de la Torah en plaçant devant lui une femme adultère sans défense. Il pense réussir à entacher la réputation du maître en lui tendant ce piège pour avoir de quoi l'accuser. En effet, Jésus s'est déjà prononcé sur l'indissolubilité du mariage, que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Et la question « Et toi, qu'en dis-tu ?» vise donc à lui faire perdre la face devant tout le monde. Jésus est provoqué sur son propre terrain, celui de la miséricorde, cette miséricorde qu'il accorde si largement aux pécheurs. N'est-ce pas ce qu'il vient de faire à propos de Zachée dans la ville de Jéricho ?
Aujourd'hui, le salut est venu pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus.
On se souvient aussi que Jésus a accueilli une pécheresse qui se jetait à ses pieds, les baignait de ses larmes, les essuyait avec ses cheveux, les couvrait de baisers. Et à son hôte, étonné qu'il se laisse approcher par une femme de mauvaise réputation, Jésus avait déclaré
« Si je te déclare que ses péchés si nombreux ont été pardonnés, c'est parce qu'elle a montré beaucoup d'amour. Mais celui à qui on pardonne peu montre peu d'amour. »
Entre toutes les questions qui ont été posées à Jésus au cours de sa vie, celle-ci, et toi, qu'en dis-tu ? Apparaît comme la plus décisive. Il s'agit en effet d'un problème de vie ou de mort, où est mis en cause l'aspect le plus original de l'attitude de Jésus, qui est sa miséricorde. Et donc, impossible pour lui d'échapper à l'alternative. Ou bien c'est la Torah de Moïse qui triomphe, ou bien c'est la miséricorde. Si Jésus ne condamne pas cette femme, on pourra l'accuser de ne pas respecter la Torah de Dieu, et s'il la condamne, il perdra l'estime des foules et de tous ces petits, ces pécheurs, ces marginaux, et il sera placé en contradiction avec cet évangile qu'il prêche aux petits et aux humbles.
Mais Jésus, se baissant, se mit à tracer du doigt des traits sur le sol.
Alors que signifie cette attitude ? Est-ce qu'elle est là simplement pour permettre un temps d'arrêt, un moment de silence et inviter chacun à discerner les vraies raisons de leur accusation ? On ne sait pas comment expliquer ce geste d'écrire. Certains disent que Jésus veut imiter là un texte de Jérémie.
Tous ceux qui t'abandonnent seront honteux. Ceux qui se détournent de toi seront inscrits dans la terre.
D'autres suggèrent que Jésus écrivait sa réponse selon la coutume romaine où les sentences des juges devaient être écrites. D'autres enfin s'appuient sur des textes de la littérature arabe où ce geste signifie qu'on ne veut pas s'impliquer comme juge dans une affaire.
Comme ils persistent à l'interroger, ils se redressent et leur disent « Qui d'entre vous est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter la pierre ?»
Il se peut que Jésus évite le piège en rappelant les exigences de la Torah, qui veut en effet que ce soit les témoins eux-mêmes de l'adultère qui soient ceux qui jettent la première pierre. Rappelons ce texte du Deutéronome.
C'est sur les déclarations de deux ou trois témoins que le coupable sera mis à mort. Il ne sera pas mis à mort sur la déclaration d'un seul témoin. La main des témoins sera la première pour le mettre à mort.
Ou bien Jésus veut-il interroger les témoins sur leur propre attitude? Sont-ils vraiment purs de cœur dans cette affaire ou au contraire sont-ils fourbes? Plus profondément encore, Jésus ne veut-il pas montrer le vrai visage de Dieu? Oh certes, le péché est péché et c'est mal parce qu'il détruit la vraie beauté de l'être humain. Mais le pécheur a droit d'abord à la miséricorde parce que Dieu est un Dieu de vie et non pas un Dieu de mort. Jésus rappelle que tout être humain en effet est pécheur.
Ne vous posez pas en juge afin de n'être pas jugé. Car c'est de la façon dont vous jugez qu'on vous jugera. Et c'est la mesure dont vous vous servez qui servira de mesure pour vous. Qu'as-tu à regarder la paille qui est dans l'œil de ton frère? Et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas.
Oh, certes, Jésus n'interdit pas d'apprécier les situations avec objectivité. Mais il demande de ne pas condamner son prochain en prenant ainsi la place de Dieu qui est le seul vrai juge parce qu'il connaît le secret des cœurs. Pourquoi est-ce que nous oublions si facilement notre propre besoin de pardon devant le Seigneur, comme nous le rappelle le psaume 50?
Ô Dieu, fais-moi miséricorde selon ta bonté. Efface mon péché dans ton immense compassion. Oui, je connais mon péché. J'ai fait ce qui est mal à tes yeux.
Jésus, en vrai rabbi, ne nie pas l'importance de l'application de la Torah de Moïse, mais il interroge directement la conscience de chacun des accusateurs. Homme au jugement perverti, ôte d'abord la poutre de ton œil, et alors tu verras clair pour ôter la paille de l'œil de ton frère.
En entendant cela, un à un ils sortent, en commençant par les anciens.
Eh bien, ces anciens, qui sont-ils? On traduit souvent dans les Bibles en commençant par les plus âgés, mais ces anciens ne sont pas forcément les gens âgés. Le mot peut aussi désigner les membres du Sanhédrin, qui est le collège des notables juifs, ceux qui précisément ont le droit de juger. Et on sait que le Sanhédrin cherche à trouver Jésus coupable. Ce sont d'ailleurs eux qui bientôt vont décider de livrer Jésus au pouvoir romain pour qu'il soit crucifié. Eh bien ici, les accusateurs sont sans doute conscients que leur accusation est devenue vaine devant l'attitude de vérité de Jésus.
« Femme, où sont-ils? Personne ne t'a condamné. » Elle dit « Personne, mon Seigneur. » Jésus dit « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va, désormais, ne pêche plus. »
Eh bien, l'épreuve est achevée d'une certaine manière et Jésus en est sorti vainqueur. Seul reste celui qui n'a pas péché, Jésus, et celle dont le péché est public. Comme disait Augustin, deux sont restés, la malheureuse et la miséricorde, un jeu de mots en latin qui est « misera et misericordia », celle qui souffre, la misérable, la malheureuse, et celui dont le cœur est compatissant à la souffrance, celui dont le cœur est miséricorde. Là où les juges voyaient un être à punir, Jésus, lui, a vu un quelqu'un à secourir. Quel réconfort et quelle paix doivent être ressentis alors par cette jeune femme. Elle retrouve son souffle de vie, elle retrouve sa confiance en elle-même à cause de ce regard de bonté que le Maître Jésus a posé sur elle. Dans son geste, Jésus témoigne que son Père est le Dieu qui sauve, le Dieu de la vie et non pas le Dieu de la mort. Dieu n'est pas le juge qui punit de mort la désobéissance à sa Torah, mais le Père qui sauve et qui n'est jamais conditionné dans son amour, quels que soient les actes de ses fils et de ses filles, même les actes les plus coupables.
Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui.
Jésus ne demande même pas d'ailleurs à cette jeune femme d'aller sacrifier au temple pour obtenir le pardon de Dieu. Dieu lui a déjà pardonné, et lui a pardonné sans aucune autre condition que l'accueil sincère de ce pardon d'amour. et cela va la rendre forte pour vivre désormais dans un plus grand amour. Oui, le pardon n'est pas le simple effacement de la sanction méritée, mais il est surtout le surcroît d'amour qui est donné par Jésus pour que l'on puisse se relever et que notre amour soit purifié. C'est sans doute le sens de cette magnifique réponse de Maurice Zendel à quelqu'un qui venait confesser sa relation avec une maîtresse. Aimez-la davantage. Bien, l'attitude du jugement est certainement très profondément ancrée dans le cœur de chaque être humain. Et même le cheminement dans la vie spirituelle ne nous rend pas exempts d'une telle tentation. C'est en tout cas ce que dit très bien le théologien orthodoxe Olivier Clément. Au-delà, dit-il, d'une éthique de la Torah, le chrétien, au fur et à mesure qu'il approfondit sa foi, est appelé à inventer une morale qui peut paraître paradoxale, celle de l'amour créateur, car cette morale va faire passer la personne dans son mystère, dans sa destinée, avant même les notions sociales de bien et de justice. Ainsi Jésus, devant la femme adultère, il rappelle aux bourreaux de celle-ci, aux accusateurs, leur propre état de séparation et d'adultère spirituel. Pour l'être humain qui est engagé dans la voie spirituelle, rien n'est plus important que ce refus dicté par l'Évangile, ce refus de juger. Si pour ceux qui débutent dans la vie spirituelle et qui commencent à progresser, ce sont l'avidité et la vanité qui vont être les véritables tentations, pour ceux qui sont les plus avancés, l'effondrement viendra toujours du jugement porté sur autrui. Toute l'ascèse alors est frappée de pharisaïsme spirituel, au sens que ce mot que l'Évangile donne à ce mot. L'ascèse ne vaut que comme creusement d'humilité. L'humilité comme capacité d'un amour désintéressé. Et c'est pourquoi, pour les spirituels, toute la vertu peut tenir dans ce refus de mépriser. Il nous faut donc être vigilants pour ne pas tomber dans ce pharisaïsme. Et pour cela, nous devons toujours nous rappeler que la sainteté du disciple de Jésus ne se trouve pas d'abord dans la perfection morale, mais qu'elle se trouve d'abord dans l'accueil amoureux de la personne même de Jésus. Il s'agit de nous laisser aimer en ouvrant totalement notre cœur avec une passion que l'Esprit de Dieu est seul à pouvoir nous inspirer. Ce sont les cœurs qui prient qui se laissent le mieux aimer.
Seigneur mon Dieu et mon Père, tu connais ma vie, ma pensée, mon cœur. À tes yeux, il n'y a pas de juste, pas un seul. Cependant, tu ne repousses personne. Tu aimes chacune, chacun de nous. Tu sais ce dont il a besoin et tu le lui proposes. Tu n'attaches d'importance qu'aux mains ouvertes que je tends vers toi, pour que tu les remplisses avec abondance. Dans la passion et la mort d'amour de Jésus, ton bien-aimé, tu veux prendre mes misères et mes ténèbres pour me faire accéder à la lumière et à la joie dans une vraie communion avec toi.
Cette scène du procès de la femme adultère, d'une certaine manière, préfigure le procès de Jésus. En effet, les accusateurs demeurent les mêmes, les scribes, les pharisiens, convaincus que Jésus n'accomplit pas la Torah de Moïse, et les anciens, les membres du Sanhédrin. La Torah de Moïse condamne la femme à la lapidation, comme elle condamnera Jésus à la crucifixion. Jésus est ici écrit sur le sable et se tait, comme il gardera le silence durant son procès devant Pilate et Hérode, ou même aussi devant le Sanhédrin. Ici, Jésus rappelle que tous les humains sont pécheurs, qui de vous est sans péché. Lors de son arrestation au jardin de Gethsémani, il affirmera « C'est maintenant votre heure qui est le pouvoir des ténèbres ». Mais le jugement ne tourne pas à la condamnation. Ni pour la femme, je ne te condamne pas, ni pour ceux qui feront mourir sur une croix Jésus. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ainsi, par sa grande compassion pour l'être humain, Jésus accomplit sa mission de révéler qui est Dieu. Le Dieu qui sauve, le Dieu de la vie et non pas le Dieu de la mort. Et à la suite de cette libération de cette femme accusée, lui, Jésus, le donneur de vie et de pardon, pourra marcher vers sa passion et sa mort. N'est-ce pas le paradoxe de cette existence de Jésus ? Il va choisir de perdre sa vie pour apporter la vie à l'humanité par le pardon d'amour.
C'était Du pain sur la table, une émission de l'École de la foi de Montréal. Si vous désirez le texte de l'émission ou la cassette audio, téléphonez au numéro 514-256-4110.
514-256-4110. Vous savez que vous pouvez aussi nous trouver sur Internet, l'adresse de notre site www.relaismontroyal.com. Relais Mont-Royal en un seul mot et sans trait d'union. relaismontroyal.com. Vous pouvez aussi vous abonner soit au feuillet du pain sur la table, soit aux cassettes enregistrées. Et téléphonez-nous, nous vous donnerons les tarifs des abonnements pour 3 mois, 6 mois ou 1 an.
Du pain sur la table est diffusé le samedi à 8h30 et en reprise le dimanche matin à 5h30. Choix musical et enregistrement, Jean Béduchaud.
Chers auditeurs, chères auditrices, à la semaine prochaine, ne laissons pas le pain sur la table sans en faire notre nourriture.